La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, troisième semaine autour de l'intuition créatrice dans l'art et la poésie de Jacques Maritain. L'intuition créatrice dans l'art et la poésie de Jacques Maritain nous semble simple. Avec les deux dernières semaines, nous naviguons tranquillement. Eh bien, je vais commencer cette troisième émission par un sécateur. Il faut prendre un sécateur pour entrer dans la forêt vierge de termes techniques. Et oui, Maritain reste un philosophe métaphysicien de manière éminente. Je dis bien éminente, on ne peut abandonner la philosophie à elle-même. Elle est toujours liée d'une manière ou d'une autre à la théologie. Et faire des barrières et de mal comprendre ce que Maritain peut entendre par philosophie chrétienne, c'est très grave. Et bien voilà, le petit détour dans la jungle technique, scolastique, qui nous permet de comprendre un peu mieux ce que Maritain apporte de nouveau dans sa réflexion sur l'art. Ça ne va pas durer longtemps, mais ça vaut la peine de se faire plaisir par la technicité philosophique. Qu'est-ce que l'intellect illuminateur et l'activité préconsciente de l'esprit ? Laissons la parole à Maritain. Je voudrais avancer quelques indications philosophiques. Descartes a fait de la notion d'inconscient psychologique une énigme contradictoire lorsqu'il a défini l'âme par l'acte même de la conscience de soi. Freud et ses prédécesseurs ont donc droit à notre reconnaissance pour avoir obligé les philosophes à reconnaître l'existence d'une pensée et d'une activité psychologique inconsciente. Avant Descartes, on considérait l'âme humaine comme une réalité substantielle dont la nature n'était accessible qu'à l'analyse métaphysique. C'était une entéléchie spirituelle informant le corps vivant et un agent opérant, distinct de ses propres opérations. Rien de plus éloigné de la conception cartésienne. Les scolastiques ne se sont pas souciés d'élaborer une théorie de la vie inconsciente de l'âme, mais leur doctrine impliquait son existence. L'enseignement de saint Thomas sur la structure de l'intellect me paraît particulièrement significatif à cet égard. Il n'y est pas question de la poésie, mais au contraire de la connaissance abstraite et de la formation des idées. Mais pour cette raison même, nous trouvons là des vues fondamentales sur le préconscient spirituel de l'intellect qui pourront être utilisées plus tard à propos de la poésie. Voyez l'intelligence de Maritain, il ne s'attache pas uniquement à la lettre mais à l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il fait dire n'importe quoi au texte, mais il va chercher le mouvement profond qui gouverne la pensée de saint Thomas. Actuellement, avec l'école française médiévale, nous sommes beaucoup plus attachés à la lettre pour voir comment tel mot va remonter à tel incident chez tel ou tel auteur. C'est bien, ça apporte une technicité. Mais sans ces deux, main droite, main gauche, l'esprit et la lettre, il y a quelque chose de desséché, de sec, qui passe complètement à côté de la lettre. Et voyons comment le texte de saint Thomas, qui ne dit absolument rien sur l'art, mais qui apporte une anthropologie, pourra éclairer Maritain dans sa recherche. Aux yeux de la philosophia perennis, poursuit-il, l'intellect est spirituel, et donc essentiellement distinct des sens, et pourtant, selon le mot d'Aristote, rien n'est dans l'intellect qui ne vienne des sens. Il faut donc expliquer comment un certain contenu spirituel qui sera vu et exprimé dans un concept abstrait peut être tiré des sens c'est-à-dire des représentations et des images rassemblées et raffinées dans les facultés sensitives internes et qui ont leur origine dans la sensation. C'est sous la pression de cette nécessité qu'Aristote a été obligé de poser l'existence d'une énergie intellectuelle purement active et perpétuellement active, le nous poietikos, nous voulant dire intellect et poietikos, vous retrouvez, qui fait, qui fabrique, qui fait. Et il appelle l'intellect agent, disons l'intellect illuminateur qui pénètre les images de sa pure et purement activante lumière spirituelle et qui actue ou éveille l'intelligibilité potentielle contenue en elle. Aristote n'a ajouté d'ailleurs que peu d'indications et parfois ambiguës sur l'intellect illuminateur qu'il a décrit seulement comme supérieur en nature à tout ce qui est dans l'homme, en sorte que les philosophes arabes ont pensé qu'il était séparé et donc unique et le même pour tous les hommes. Les scolastiques antérieurs à saint Thomas l'ont aussi tenu pour séparé, mais en l'identifiant à l'intelligence divine. Ça a été l'œuvre de saint Thomas de faire voir que la personne humaine étant un agent ontologique parfait ou pleinement équipé et maître de ses actes, l'intellect illuminateur ne peut pas être séparé, mais doit faire intrinsèquement partie de l'âme et de la structure intellectuelle de chaque individu. C'est une lumière spirituelle intérieure qui est bien une participation de la lumière incréée, mais qui existe en chaque être humain, par ou par sa spiritualité constamment en acte. Elle est la source originelle et vivifiante de toute l'activité intellectuelle de celui-ci. Comment vous résumer ces lignes techniques? Eh bien, par un seul mot, intériorité. Comme l'homme est fait à l'image de Dieu, à l'image et à la ressemblance, il est parfait. S'il est parfait, il contient tout en lui. Et du coup, la notion platonicienne de participation, qui est une participation à quelque chose qui dépasse, on l'avait vu dans l'éthique platonicienne, c'est toujours inaccessible, parce que c'est toujours en dehors de la sphère humaine. Eh bien, en faisant descendre la muse platonicienne dans l'homme, dans l'intériorité du soi, la participation est intérieure et elle se fera de manière complète, parfaite, par la grâce. C'est-à-dire que Maritain pense toujours un trépied, théologie, philosophie et mystique. C'est ainsi qu'on peut vraiment comprendre comment cette articulation organique entre philosophie et théologie est possible. Pour ce qui nous regarde, notre propos de l'art, nous pouvons retenir que l'apport de saint Thomas, c'est d'intérioriser cet intellect illuminateur et de ne pas le laisser séparer avec la tentation d'en faire qu'un seul commun à tous les hommes. Et en l'intériorisant, en suivant ce processus d'intériorisation, Maritain l'approfondit, va plus loin et peut mettre au point l'intuition créatrice. L'intellect illuminateur, écrit-il, active seulement, il ne connaît pas. Quant à l'intellect que les anciens appelaient intellectus possibilis, parce qu'il n'est d'abord et de soi qu'une table rase, seulement en puissance à l'égard de la connaissance et des formes intelligibles qu'il recevra, cet intellect connaissant doit, pour connaître, être actué et formé par ce qui est tiré des images, et les images sont pénétrées de matérialité. Ainsi, à une première étape, le contenu intelligible présent dans les images et qui en celle-ci n'est intelligible qu'en puissance ou capable d'être rendu, capable de devenir un objet de vision intellectuelle, est rendu intelligible en acte dans une forme spirituelle, disons dans un germe intelligible que l'intellect reçoit des images sous l'activation de l'intellect illuminant. Mais cela ne suffit pas encore pour connaître. Il ne faut pas seulement que le contenu intelligible tiré des images soit intelligible en acte ou capable de devenir un objet de vision intellectuelle, il faut qu'il soit intelligé en acte ou actuellement devenu un objet de vision intellectuelle. C'est alors l'intellect lui-même qui, fécondé par la forme intelligible, produit vitalement un fruit intérieur, une forme spirituelle finale, qui est le concept dans lequel le contenu tiré des images est enfin amené à cet état même de spiritualité en acte où se trouve l'intellect en acte et dans lequel ce contenu maintenant parfaitement spiritualisé est vu, est actuellement objet de vision intellectuelle. Pourquoi vous ai-je lu ces lignes compliquées? Pour vous faire comprendre une autre notion, celle d'acte et de puissance, qui n'est pas une notion duel. Souvent, on a dit que la phénoménologie s'était opposée à cet héritage et partait du phénomène qui permettait de sortir de ce clivage puissance-acte. Vous le voyez ici, il y a plusieurs étapes. Et ce qui est en puissance pour être actualisé doit passer par la vision intellectuelle, c'est-à-dire une intellection intelligée, c'est-à-dire plusieurs étapes d'action. Et on passe du spirituel au matériel par une sorte de réserve d'image qui va tout d'un coup devenir préhensible, visible, tangible. Et le lexique de Maritain, vous l'avez senti, est non seulement celui de la puissance et de l'acte, mais celui de la fécondité. Vous avez le mot germe, le mot fécondation, le mot intellection qui mettent en place eh bien, un processus dynamique. Il y a quelque chose qui ne s'interrompt pas et qui est organique et qui ne peut laisser admettre une vision très statique et immobile de l'acte et de la puissance. Ouf pour la partie technique. Nous allons revenir à des images plus poétiques et plus tangibles pour comprendre l'intuition créatrice dans l'art et la poésie.
Philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Détour par la pensée, puisque nous avons vu comment fonctionnait l'intellect. Pourquoi ce détour par la pensée? Tout simplement parce que l'intuition créatrice va être à la base de tout savoir. Maritain a rencontré des savants, des scientifiques, des mathématiciens, et pour lui, il n'y a pas de savoir sans intuitivité. Et c'est par ce détour que l'intuition créatrice dans l'art et la poésie peut être mieux comprise. Ainsi, nous savons, pas toujours sans doute, ce que nous pensons, mais nous ne savons pas comment nous pensons. Et avant d'être formés et exprimés dans des concepts et des jugements, la connaissance intellectuelle est d'abord un début de vision, encore informulée, une sorte de nuage plein d'yeux, né de l'incidence de la lumière, de l'intellect illuminant sur le monde des images, humble et tremblant commencement, sans prix cependant, qui tend vers un contenu intelligible à saisir. On voit qu'il y a donc un parallèle entre l'acte de connaître et l'acte de créer. Alors, pour Maritain, il s'agit de montrer comment la notion d'inconscient ou de préconscient spirituel est philosophiquement fondée. J'ai suggéré, écrit-il, de l'appeler aussi inconscient musical, parce que, ne faisant qu'un avec l'activité originelle de la raison, cet inconscient contient dès le début un germe de mélodie. Mais ici, nous n'avons considéré l'inconscient spirituel que du point de vue de la structure de l'intellect en général et par rapport à la fonction abstractive de l'intelligence et à la naissance des idées. Il n'a pas été question de poésie. Donc, revenons-y et revoyons la muse platonicienne intériorisée dans cet inconscient. C'est ainsi que Maritain nous emmène vers la quatrième conférence, c'est-à-dire le chapitre 4, l'intuition créatrice et la connaissance poétique. C'est dans ce chapitre que vous avez ce schéma dont je vous parlais, avec les trois cônes, et dans ce chapitre que Maritain va s'étendre sur l'intuition poétique. Ici, il va faire un pont avec Dieu. Il va montrer que le premier point de repère dans cette question, c'est celle de libre créativité de l'esprit. Et en étant librement créateur, vous le voyez, l'artisan et l'artiste sont des imitateurs de Dieu, mais pas au sens qu'ils vont imiter le geste, mais ils sont co-créateurs. Ils imitent le mouvement intérieur de créativité. Ils en ont une part. Cette liberté, Maritain y insiste fondamentalement. L'idée créatrice de Dieu, écrit-il, du fait même qu'elle est créatrice, ne reçoit rien des choses, puisque les choses n'existent pas encore. Elle n'est en rien formée par son objet créable, elle est purement formatrice et formante. Et ce qui sera exprimé ou manifesté dans les choses faites n'est rien d'autre que leur créateur lui-même, dont l'essence transcendante est énigmatiquement signifiée d'une manière diffuse, dispersée ou morcelée par des œuvres qui en sont des ressemblances déficientes et des participations créées. L'intelligence de Dieu n'est déterminée et spécifiée par rien d'autre que sa propre essence. C'est en se connaissant lui-même dans un acte d'intellection qui est son essence et son existence même, qu'il connaît ses œuvres, lesquelles existent dans le temps et ont commencé dans le temps, mais auxquelles il donne l'être par un acte libre éternel. Tel est le suprême analogué de la poésie. La poésie est engagée dans la libre créativité de l'esprit. Et ainsi, elle implique un acte intellectif qui n'est pas formé par les choses, mais qui est, par essence, formateur et formant. Mais quoi ? Il est trop clair que le poète est un pauvre Dieu. Il ne se connaît pas lui-même, et sa vision créatrice dépend misérablement du monde extérieur, et de l'amas infini, des formes et des beautés déjà faites par les hommes, et de la masse des choses que les générations ont apprises, et du code de signes en usage dans la tribu, transmis par un langage qu'il n'a pas fait. Pourtant, malgré tout cela, il est condamné tout ensemble à soumettre à ses propres desseins tous ces éléments étrangers, et à manifester sa propre substance dans sa création. On voit ici à quel point la subjectivité du poète est essentielle à la poésie. Et vous sentez combien Maritain est cohérent. Nous étions partis du soi et des choses. La subjectivité est essentielle à la poésie. L'apport de la modernité, mis en exergue, en évidence, par la Renaissance et par la fracture baudelairienne suivie par Rimbaud et tout le reste, Maritain ne le rejette pas. Il l'utilise, il l'honore, il en voit la force, il en voit la beauté même. Il s'agit de dire que le soi est primordial. Et dans le soi, il y a la personne humaine. Et dans la personne humaine, il y a cette image, cette ressemblance de Dieu. C'est proprement exaltant. Et voilà comment la poésie fait de l'homme un co-créateur malgré toute la finitude et malgré tout cet amas de choses, comme disait Claudel, qui sont déjà là et qui nous préexistent. Le but du poète, écrit Maritain, n'est pas de se connaître soi-même. Il n'est pas un gourou arrivé par le vide à expérimenter intuitivement l'existence du soi, de l'atman, dans sa pure et pleine actualité, est la fin spécifique de la mystique naturelle. Ce n'est pas la fin de la poésie. Le besoin essentiel du poète est de créer, mais il ne peut pas créer sans passer par la porte de la connaissance, si obscure soit-elle, de sa propre subjectivité. Nous l'avons vu, l'obscurité est inhérente à l'acte créateur, puisque c'est dans cette obscurité de l'intellect intérieur, du préconscient spirituel, que peut advenir l'intuition créatrice. Attention, ne pas confondre les finalités. Si le poète cherche à connaître et à se connaître, il confond mystique et poésie. La finalité de la poésie n'est pas la connaissance, mais la création. Et c'est là la limite avec Rimbaud. Dans les Illuminations, Rimbaud est un voyant. Il veut voir pour savoir. Et Maritain ne peut pas suivre cette vision de la poésie. Le poète doit rester un créateur. Car la poésie implique avant tout un acte intellectif qui, de par son essence, est créateur, écrit Maritain, et forme quelque chose dans l'être au lieu d'être formé par les choses. Et qu'est-ce qu'un tel acte peut bien exprimer et manifester en produisant l'œuvre, sinon l'être même et la substance de celui qui crée ? C'est ainsi que plus les œuvres du peintre ou du sculpteur ou du musicien ou du poète tiennent de près aux sources de la poésie, plus elles révèlent, d'une manière ou d'une autre, la subjectivité de leur auteur. Eh bien, vous voyez ici une réponse à ce que j'évoquais dans la première émission sur l'art, il y a 2 semaines, celle de l'art chrétien. Ça n'existe pas, l'art chrétien. Sinon, on tombe dans l'art académique ou l'art saint-sulpicien. Ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est d'être un chrétien qui crée et d'obéir aux lois de la poésie, aux lois de la création, puisque toute œuvre créatrice qui va puiser dans le soi laisse transparaître le soi profond de la personne qui crée, et donc la foi chrétienne. À tout de suite, après ces dernières mesures de Béla Bartók, pour conclure. Le soi est fondamental. Le poète ne se connaît pas dans la lumière de sa propre essence, puisque l'homme ne se perçoit lui-même que par une répercussion de sa connaissance du monde des choses et reste vide à lui-même s'il ne s'emplit pas de l'univers. Le poète ne se connaît qu'à la condition que les choses résonnent en lui et qu'en lui, d'un même éveil, elle et lui sortent ensemble du sommeil. C'est dans les frontières de la poésie que Jacques et Rail Samaritain ont déjà écrit ces lignes. En d'autres termes, la première exigence de la poésie, qui est la connaissance obscure par le poète de sa propre subjectivité, est inséparable d'une autre exigence, qui est la saisie par le poète de la réalité objective du monde extérieur et intérieur, non par le moyen des concepts et de la connaissance conceptuelle, mais par le moyen d'une connaissance obscure. Alors, pour conclure, d'une manière générale, regardons combien l'obscurité de notre monde est mise à mal, combien il est indispensable pour que nous puissions vivre de pouvoir garder cette obscurité, ce rêve et cette vie contemplative. L'une des orientations vicieuses qui avilissent notre civilisation industrielle moderne, écrit Maritain, est une sorte d'ascétisme au service de l'utile, une sorte de mortification impie qui ne tend à aucune vie supérieure. La pandémie était une chance pour nous de rentrer dans la contemplation et elle devient une dispersion dans le masque, les gels et l'isolement. Les hommes sont encore capables d'excitation et de délassement, mais ils sont presque complètement privés de tout plaisir et repos de l'âme, écrit Maritain. Vie qui paraîtrait insensée même aux grands matérialistes de l'Antiquité. Ils se flagellent, ils renoncent à la douceur du monde et à tous les ornements du terrestre séjour avec la seule stimulation de travailler, travailler, travailler et d'acquérir un empire technologique sur la matière. Leur vie quotidienne ne manque de rien, autant que des délectations du sens intelligentier. Et il n'est pas rare que même les églises où ils prient soient des chefs-d'œuvre de laideur, surtout avec nos papiers qui indiquent le sens giratoire observé en temps de pandémie. Alors, puisqu'on ne peut pas vivre sans délectation, écrit Maritain, il ne leur reste d'autres ressources que ces arts et plaisirs qui satisfont la curiosité brute d'un regard béant d'animal, d'autant meilleur qu'ils produisent la stupeur et l'oubli comme un substitut de l'ataraxie épicurienne. Rien d'étonnant que d'autres sortes de drogues, depuis l'alcool ou le marijuana jusqu'au culte de la Vénus charnelle, occupe une place croissante dans le processus de compensation. Alors, profitons de cette réouverture des salles de spectacle, les concerts et expositions pour aller voir les tableaux et écouter les violons.